Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'épître de ce 17e dimanche après la Pentecôte, il s'agit des 6 premiers versets du 4e chapitre de l'épître aux Éphésiens, nous donne dès les premiers mots les circonstances dans lesquelles Saint Paul l'a écrite. Ego vinctus in domino. Moi enchaîné pour le Seigneur. Saint Paul était en effet en prison lors de l'écriture de cette épître. Il se trouvait à Rome sous la garde d'un légionnaire. Selon l'usage, il était lié par le bras au moyen d'une lourde chaîne au bras de son gardien. Ce système de liens crée une réelle dépendance du prisonnier à son gardien et, dans un certain sens, du gardien à son prisonnier. Ils dépendaient ainsi l'un de l'autre dans tous leurs mouvements, au point qu'ils semblaient être le prisonnier l'un de l'autre. Cependant, saint Paul ne dit pas qu'il est prisonnier du légionnaire qui veille sur lui, mais prisonnier pour Jésus-Christ, prisonnier de Jésus-Christ. On peut y voir une image des rapports d'intimité étroite entre notre Seigneur Jésus-Christ et son apôtre. Les épîtres, de fait, de la captivité, dont fait partie cette épître aux Éphésiens, ont un accent plus émouvant, une profondeur de vue toute spéciale concernant le mystère du Christ. Il y a cette intimité entre notre Seigneur et son apôtre, plus importante. À titre d'exemple, au chapitre précédent de cette épître, c'était l'épître de dimanche dernier, saint Paul nous a parlé de la charité du Christ dans les termes les plus enflammés. Aujourd'hui, ce qui tient à cœur à saint Paul, c'est l'unité entre les chrétiens d'Éphèse. L'apôtre sentait cette unité menacée par 3 dangers. Premier danger, les difficultés de caractère. Deuxième danger, la diversité des charismes. Et enfin, troisièmement, les divergences doctrinales. Aujourd'hui, saint Paul s'attaque au premier péril, les difficultés de caractère. Après un bref rappel de la vocation des Éphésiens, il leur signifie la nécessité de l'union par la charité fraternelle. Puis, dans un premier paragraphe, puis dans un deuxième paragraphe, il va rattacher à des principes surnaturels cette nécessaire union entre les âmes unies à notre Seigneur Jésus-Christ. Commençons par la première partie, la nécessité de la charité et des vertus qui lui sont connexes. Saint Paul traite ce sujet sous son aspect négatif, ce qu'il faut éviter pour sauvegarder cette unité dans la charité, puis dans son aspect positif, ce qu'il faut faire, et les fruits de cette unité. Sous son aspect négatif, la charité ne peut exister sans certaines vertus connexes, qui suppriment de nombreux germes de division. Saint Paul en donne 4. 4 vertus connexes qui vont supprimer des obstacles à cette charité fraternelle. Première vertu connexe, l'humilité, qui nous fera reconnaître nos travers et nos torts. Il nous faut reconnaître que nous sommes en grande partie responsables des difficultés dont nous nous plaignons dans nos rapports avec le prochain. Il n'est pas difficile de comprendre comment cette vertu, pratiquée envers autrui, facilite grandement la charité avec le prochain. L'humilité nous fait en effet reconnaître nos travers et nos torts avant ceux des autres, nous montre en nos infidélités que nous sommes en grande partie responsables des difficultés dont nous nous plaignons dans nos rapports avec le prochain. Et c'est l'exemple de Sainte Catherine de Sienne, qui s'estimait la plus grande des pécheresses et qui attribuait à ses péchés les malheurs de l'Église. Padre Pio, dès qu'il y avait un problème en communauté, il était le premier à se mettre à genoux pour demander pardon. Humilité. Deuxième vertu connexe, la douceur. Cette vertu préviendra les heurts de caractère par des ménagements et des attentions délicates. On ne saurait trop insister sur la nécessité de cette vertu, pratiquée notamment dans toutes les marques de politesse, qui rendent la vie si facile et si douce, et dont l'absence de ces marques de politesse rend la vie en commun tendue, pénible, voire orageuse. Et aujourd'hui, il y a des efforts à faire sur la politesse. On vit dans un siècle où toutes les pratiques de politesse qui nous ont été léguées par nos ancêtres sont en train de disparaître. Humilité, douceur, troisièmement, la longanimité ou la patience, qui fermera les yeux sur les torts d'autrui et retiendra des sentiments d'impatience prêts à éclater. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une prière que le bon Dieu veut que nous fassions tous les jours et que nous pratiquions dans notre conduite quotidienne. Humilité, douceur, longanimité ou patience, quatrièmement, le support mutuel. Ce support sera la conséquence et comme le résumé de toutes ces dispositions volontairement bienveillantes. Saint Paul nous demande à ce sujet, dans une autre de ses épîtres, de porter les fardeaux les uns des autres afin d'accomplir la loi du Seigneur. Il faut reconnaître que bien souvent, ce n'est pas tant la paresse ou la dureté de cœur qui resserre nos entrailles et nous tienne loin de la souffrance des autres. C'est bien trop souvent l'égoïsme qui fait que nous ne sommes concernés que par notre petite personne. Nous ne nous apercevons même pas des malheurs du prochain, trop concentrés sur nos petites affaires. L'amour de nous-mêmes concentre malheureusement trop souvent nos regards sur notre petite personne et nos petits problèmes. L'égoïsme a ce triste pouvoir de nous aveugler au point de ne faire aucun cas des souffrances qui ne sont pas les nôtres. La charité, au contraire, ouvre les yeux, fait s'oublier pour penser aux autres, penser à Dieu, et parce que Dieu, le prochain aussi. Sainte Catherine de Sienne, dans son dialogue, donc ses communications avec le bon Dieu lui a dit que le prochain était la marque de l'amour de Dieu. Ce que l'on fait pour le prochain, c'est pour Dieu. Et s'il n'y a pas d'amour du prochain, il n'y a pas d'amour du bon Dieu. Passons maintenant à l'aspect positif dans la pratique de la charité. Saint Paul nous dit que la charité suppose un profond désir de paix. Or, la paix est le sentiment de tranquillité qui résulte de l'ordre. L'ordre résulte lui-même de l'accord des volontés, de cette unité nécessaire, pour que chacun se maintienne au rang qui lui est assigné par la Providence. Et là, cet ordre entre nous, qui montrera l'unité entre nous, se manifestera notamment par le respect des rapports d'obéissance dans la famille, dans la vie professionnelle aussi, avec sa contrepartie qui est l'usage, selon Dieu, de l'autorité que nous avons pu recevoir et qui, si elle s'applique de façon prudente et dans le but de servir Dieu, facilite grandement l'obéissance de ceux qui y sont tenus. Cette atmosphère de paix qui résulte de cet ordre est très favorable à l'établissement ou au maintien de l'unité d'esprit. Et c'est à ce point que veut arriver Saint Paul. Cet idéal a d'ailleurs été pratiqué au début de l'Église par les chrétiens de Jérusalem. Les Actes des Apôtres nous disent d'eux qu'ils ne faisaient qu'un cœur et qu'une âme. Bien sûr, cela n'est possible qu'au prix de sacrifices réciproques en faveur de l'union. L'unité entre nous n'est possible qu'au prix de sacrifices. Mais ces considérations sur les vertus sont insuffisantes à Saint Paul. Il sent le besoin de rattacher cette unité voulue entre les chrétiens d'Éphèse et plus largement entre les chrétiens de tous les temps à des principes doctrinaux supérieurs. Il commence par un premier mouvement ternaire. Il y en aura trois. Première énumération, ternaire. Un seul corps et un seul esprit. Et comme aussi votre vocation ne concerne qu'une seule espérance. Un corps, un esprit, une espérance. Un seul corps. Il s'agit du corps mystique du Christ auquel nous sommes agrégés par le baptême. Il n'y a qu'un corps visible de l'Église qui rassemble en soi tous les fidèles. Ce corps mystique est unique, c'est l'Église catholique. Et voilà une raison de l'unité entre nous donnée par Saint Paul. nous sommes tous membres de cette Église catholique. Notre unité doit se fonder sur cette appartenance. Un seul esprit. Deuxième point. Il s'agit de l'Esprit Saint, de l'Esprit du Christ, de la troisième personne de la très sainte Trinité, qui joue le rôle de l'âme dans le corps mystique. Il n'y a qu'un seul Esprit, l'Esprit Saint qui anime par sa grâce le corps de l'Église comme l'âme en nous anime le corps. Cet esprit d'amour joue le rôle d'agent d'unité, tout à la fois en nous inspirant ce qui plaît à Dieu, et si nous faisons ce qui plaît à Dieu, il y aura l'unité entre nous, et en même temps en nous attirant vers Dieu. Et si tous nos efforts convergent vers le but d'obtenir la gloire du ciel, il y aura aussi l'unité entre nous. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, celle de la vision béatifique qui sera pour tous les fidèles l'éternelle récompense. Et au ciel, il y a une grande unité. Il n'y a plus aucune dissension. Deuxième énumération ternaire, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Seigneur. Ce salut dont nous avons tous besoin pour être sauvés, car nous sommes pécheurs, nous est procuré par un seul Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul nous dit dans une autre épître, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Il nous faut passer par notre Seigneur. Il est l'unique voie pour aller au ciel. Et nous devons tous passer par lui. Et il est impossible que plusieurs religions revendiquent simultanément l'honneur d'avoir été fondées par lui. Une seule fois, car c'est en les faisant parvenir à la connaissance de la vérité que Dieu veut sauver les hommes. Or, la vérité est une. Il n'y a donc qu'une seule foi, celle qui a été prêchée par les prophètes et parfaite par notre Seigneur Jésus-Christ. Un seul baptême qui nous agrège à l'Église catholique, l'unique Église fondée par ce seul Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu compléter la révélation à laquelle nous devons adhérer tous dans la même et unique foi. L'union des Églises ne peut se faire par un compromis entre confessions chrétiennes sur des points de doctrine. Ce n'est pas possible. L'unité de l'Église requiert le retour des dissidents à la foi catholique. L'Église conciliaire, qui a voulu faire l'unité au-delà de la seule et unique Église catholique, au-delà de la seule vraie foi catholique, a fait fausse route. Et ces erreurs répandues dans les âmes des fidèles, et aussi dans les âmes de ceux qui vivent déjà dans l'erreur, les païens, les adhérents des fausses religions, ont eu des conséquences les plus désastreuses. Encore récemment, le pape François, qui s'inscrit dans la continuité de Vatican II, dans la continuité des papes Jean-Paul II et Benoît XVI, c'est la suite. Lors de son dernier voyage apostolique en Indonésie, a déclaré dans la mosquée Istiqlal à Jakarta, qui est la plus grande mosquée d'Asie, que les aspects visibles des religions, constituent un patrimoine traditionnel qui doit être protégé et respecté. Donc les aspects visibles des religions, des fausses religions, ça doit être respecté et protégé. Il continue. Mais ce qui se trouve en dessous de ces aspects visibles, c'est-à-dire la racine commune à toutes les sensibilités religieuses, est unique. La racine commune à toutes les sensibilités religieuses est unique. Et il continue. C'est la quête de la rencontre avec le divin, la soif d'infini que le Très-Haut a mis dans nos cœurs, la recherche d'une joie plus forte que n'importe quelle mort qui anime le cours de notre vie et nous pousse à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de Dieu. Fin de citation du pape François. Reprenons l'expression qui est un peu la clé. La racine commune à toutes les sensibilités religieuses est unique. L'unité du pape François, c'est cette sensibilité commune. Ce n'est pas l'unité que nous prêche saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Pour le pape François, il y a unité avec diversité de foi, diversité de seigneurs et diversité de cultes religieux, donc de baptême. C'est tout l'opposé de saint Paul. Et le pape François est condamné par saint Paul. L'Église conciliaire a ramené notre sainte religion à un ensemble de considérations d'ordre purement naturel. C'est sur cette base sentimentale qu'ils essaient de faire l'unité avec les religions du monde entier dans lesquelles on trouverait, citation du pape François, une quête de la rencontre avec le divin. Encore une fois, les autres religions sont fausses. Ce sont des voies de perdition fondées par le diable. Il leur manque l'unique Seigneur, et quand elles l'ont, comme la myriade des cultes protestants, elles n'ont pas cette foi divine et infaillible qui leur permettrait d'avoir accès à la rédemption. C'est tout l'opposé de saint Paul. Saint Paul continue. Il manque une énumération. Un cycle ternaire. Un seul Dieu est Père pour tous, lui qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Saint Paul monte encore plus haut pour chercher un fondement doctrinal à cette unité. Il conclut en faisant remonter tous ses principes au premier d'entre eux, à l'ultime fondement de l'unité, la paternité de Dieu. Et l'apôtre nous donne de Dieu différentes de ses qualités. Sa divinité, Dieu, sa paternité, Père, son universalité pour tous, sa transcendance au-dessus de tous, son efficience, il agit par tous, et enfin son immanence, il est et agit en tous. Les trois personnes de la Très Sainte Trinité ont donc été successivement citées dans l'ordre de notre remontée à Dieu, un seul Esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père. C'est du Père que tout provient et au Père que tout aboutit. Concluons. Cette exhortation de saint Paul doit dépasser le cadre de cette chrétienté d'Éphèse, en proie à certaines dissensions. Il faut faire nôtre ces appels de l'apôtre à l'unité. Nous avons reçu le même baptême. Nous sommes tous catholiques, professant la même foi traditionnelle, sans mélange de modernisme ou de progressisme. Nous avons la même espérance, le ciel. Ainsi, nous devons vivre de la même vie divine, unis à notre Seigneur Jésus-Christ, et cela doit se sentir, se voir, s'entendre. D'où l'importance de la première partie de l'Épître, sur les vertus d'humilité, de douceur dans nos rapports entre nous, de patience à nous supporter, d'entraide entre nous. Quelle prédication silencieuse et pourtant si efficace que la pratique de ces petites vertus, qui, comme dit saint François de Sales, sont la marque d'une grande âme. À leur vue, les gens du dehors seront portés puissamment, eux aussi, à adhérer à ces grands principes doctrinaux que saint Paul vient de nous prêcher. Et à l'inverse, si ces petites vertus n'étaient pas pratiquées, quelle contre-prédication ! Demandons donc la grâce pendant cette messe, à la Vierge Marie également, de pratiquer ces petites vertus entre nous, humilité, douceur, patience et entraide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.